1 Corinthiens, chapitre 1, versets 6 à 8. Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Bonjour, chers frères et sœurs. Voilà le cœur de notre méditation aujourd'hui. Le témoignage de Christ étant confirmé en nous et provoquant une série de résultats qui sont ici énumérés. C'est ce que l'on veut contempler très attentivement et avec une grande dévotion personnelle. Frères et sœurs, l'objectif de l'Évangile, c'est de réconcilier l'homme à Dieu, Dieu à travers cette bonne nouvelle, nous déclare qu'il a à cœur de nous réconcilier à lui-même, que c'est dans son cœur, que ce n'est pas lui qui est séparé de nous, mais c'est bien nous qui sommes séparés de lui et de son amour à cause du péché. Et donc c'est l'objectif de l'Évangile de nous réconcilier à Dieu. Mais pas simplement cela, c'est aussi de nous transformer pour nous préparer à la communion du ciel, pour nous préparer à la communion céleste des anges, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que de tous les êtres qui ne sont jamais tombé par la désobéissance, le péché. C'est l'objectif de l'Évangile de faire cela, pas simplement de nous réconcilier à Dieu, mais d'opérer une transformation qui est suffisamment tangible pour nous introduire dans la société du ciel. Et d'ailleurs, pour même nous réintroduire, car tel est l'objectif de l'Évangile, c'est notre rédemption, le rachat de nos âmes. Parce que autrefois, nos parents faisaient encore partie de la famille céleste, mais nous nous sommes séparés de cette famille par le péché, par cette indépendance de Dieu, et Dieu a choisi. Il a plu à Dieu de sacrifier Jésus pour que nous puissions, par sa pauvreté, devenir riches. Simplement, vous allez me dire, et à juste titre, que dans le passé, les croyants, la mesure de leur sanctification était différente. Si vous êtes un bon étudiant de la Bible, vis-à-vis des derniers jours, vous distinguerez que la sanctification du croyant auparavant, toujours sous la dispensation chrétienne, même sous cette même dispensation de la pleine lumière de l'Évangile de Jésus-Christ, la sanctification du croyant était n'était pas aussi élevé, l'appel n'était pas aussi élevé. Et c'est pour une raison. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 4. Car la parole de Dieu n'a jamais changé simplement selon les circonstances des personnes. Dieu a plus ou moins gardé certaines choses sans nécessairement les révéler à certaines personnes, car il prenait en compte leurs circonstances. Prenez par exemple les Vaudois dans les vallées du Piémont, leurs circonstances tragiques, douloureuses, de faire face aux persécutions infernales de la papauté. Tous ces croyants du Moyen-Âge avaient beaucoup moins de lumière, beaucoup moins de lumière, et pourtant ils avaient la même parole de Dieu, mais les choses qui leur ont été permises de comprendre étaient proportionnelles à leurs circonstances. Si vous lisez dans Proverbes chapitre 4, verset 18, nous lisons que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Le sentier des justes. Autrement dit, la parole est la même, mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, ou comme c'est écrit dans d'autres versions, comme l'aurore, comme le soleil qui monte jusqu'à son zénith. Et donc, dans les siècles précédents, l'idéal biblique était le même, mais la lumière qui a brillé sur le sentier des justes était moindre parce que les difficultés auxquelles ils étaient confrontés étaient telles que Dieu leur a dit « Je vous donne ce peu de lumière, vivez en harmonie avec cette lumière. » Comme c'est écrit dans Apocalypse, dans les messages aux églises, parce que Dieu est comme un père qui a compassion de ses enfants et il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous ne sommes que poussière. C'est ici dans Apocalypse chapitre 2. Et ici, il parle à l'église, à l'ange de l'église de Thyatire, verset 18. Et après qu'il ait dit qu'il leur reproche de souffrir que cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et de leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles, il leur dit toutefois, au verset 24, « Mais à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui ne professent pas cette doctrine de Jézabel et qui n'ont point connu, comme ils disent, les profondeurs de Satan, je dis, je ne mettrai point sur vous d'autres charges. » Vous entendez le Seigneur Jésus ici qui parle ? Je ne mettrai point sur vous d'autres charges, mais tenez ferme seulement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Telles étaient les paroles du Seigneur Jésus au futur martyr de son nom. Et donc il leur disait qu'ils aient pu vraiment saisir que ces paroles étaient destinées à eux ou pas, il leur disait « Tenez ferme seulement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et donc, tel était son message à ces hommes de foi persécutés pour la parole de Dieu. Il leur disait, tu as peu de lumière, mais tiens ferme ce que tu as. Et celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il fera partie de la société du ciel où Jésus est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ces hommes méprisés, ces hommes vilipendés, ces hommes négligés seront rois avec le roi. Et donc, ça c'est pour vraiment mettre en lumière que, bien que la parole de Dieu ait toujours été la même, Dieu avait compassion, le Seigneur avait compassion de ceux qui vivaient dans des circonstances terribles, horribles et presque insoutenables si ce n'était pour la consolation de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Mais maintenant, frères et sœurs, maintenant c'est différent. Parce que en ces derniers jours, Dieu nous présente dans sa parole un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc si c'était simplement les commandements de Dieu, cela pourrait être des personnes qui gardent les commandements de Dieu selon leur lumière, selon ce qu'ils ont. Mais non, parce qu'il s'agit ici de ceux qui gardent les commandements de Dieu comme Jésus les a observés sur la terre. Donc vous avez ici la totalité de l'appel haut et élevé de la parole de Dieu. J'y ai fait référence, mais nous y allons dans Apocalypse, chapitre 14 et verset 12. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pas simplement ceux qui connaissent la foi de Jésus, pas simplement ceux qui ont la foi de Jésus, ceux qui gardent la foi de Jésus. Qui la garde? Qui, comme c'est écrit dans Matthieu 24, qui endure jusqu'à la fin, qui persévère jusqu'à la fin avec la foi de Jésus. C'était une foi d'amour et d'obéissance. Et pour vraiment fortifier et affermir ces réalités et ces paroles, ces représentations de la Bible, vous lisez le verset 1 d'Apocalypse chapitre 14. Et vous voyez que c'est toujours le même peuple. Je regardais ensuite, nous dit l'apôtre Jean, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Vous voyez que c'est eux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pourquoi? Parce que nous lisons que ce sont eux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Et là où est allé Jésus dans sa foi, c'est là où ils vont. Et là où est allé Jésus dans son observation parfaite des commandements de Dieu, c'est là où ils vont, ils le suivent, partout où il va. Et nous lisons que ce sont un peuple dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Donc nous voyons, sans équivoque, un peuple qui est sans faute et qui vit par la foi même de Jésus. Et c'est bel et bien ce même message que l'on retrouve à travers toute l'Écriture. C'est cet appel qui est ici, qui trouve ici un accomplissement parfait et ultime dans ce peuple. C'est l'appel que nous trouvons tout à travers la parole de Dieu, comme nous pouvons le voir notamment dans Colossiens. Dans Colossiens, chapitre 1, et verset 19 et suivant. En parlant de Jésus, nous lisons « Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort. Pourquoi ? Pour vous présenter devant lui saint, sans tâche et irrépréhensible. Et ici, nous avons ici des mots que nous avons déjà entendus. Nous venons de lire que à la fin, à la toute fin, il y aura un peuple qui finira par se tenir avec l'agneau sur la montagne de Sion. Ce peuple victorieux, ce sont les 144 000, et il est écrit à leur sujet qu'il n'y a point de fraude dans leur bouche parce qu'ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ici, vous voyez que l'apôtre Paul nous parle de ce sacrifice de Jésus. Et il dit qu'il a plu à Dieu de réconcilier par Jésus toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix. Et continuant, il dit « Vous aussi qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, vous là, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, donc en Jésus-Christ, par sa mort, pour, notez bien, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. En cible. Et c'est vrai que cette condition qui est ici désignée par ces trois mots, vous la retrouvez dans la sanctification du croyant par la foi. C'est-à-dire que si je me saisis de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et que je mets ma foi en Jésus-Christ, et je me repens à Dieu de mes mauvaises œuvres, comme c'est écrit ici, et de mes mauvaises pensées par lesquelles j'étais autrefois, où je me rends éloigné et ennemi, eh bien, Dieu, dans l'activité de la justification, nous présente saint, sans tache et irrépréhensible devant lui, et nous permet de venir avec assurance et de nous avancer avec une ferme assurance jusqu'au trône de la grâce. Donc ces termes-là, ils s'appliquent aussi de manière légale à l'activité de Dieu dans la justification. Mais quand vous lisez bien et que vous rassemblez ces choses-là, à ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 14, vous voyez que ce n'est pas simplement cela. Pas simplement cela. C'est vrai, mais ce n'est pas juste cela. Loin de là même. Il s'agit surtout de la condition finale à laquelle Dieu veut amener son peuple à travers le sacrifice de Jésus. Pas simplement de les réconcilier de manière légale, de les pardonner, mais de pouvoir les présenter devant lui saints, tangiblement saints, sans tache, véritablement sans tache et irrépréhensibles. Comment ? Comment ? C'est ça maintenant. Comment ? Par quels moyens pourrions-nous atteindre et satisfaire à cet appel-là ? Verset 23. Pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnant point l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et là, c'est clairement une confirmation du fait que cette condition n'est pas simplement l'objet de la justification, mais est une expression du résultat final, vraiment. D'être finalement saint, sans tache et irrépréhensible. Comment ? Si nous demeurons fondés dans la foi et inébranlables. De telle manière que nous persévérons dans cet amour de Dieu et dans cette justification par laquelle nous marchons accepté dans le bien-aimé, accepté par les mérites de Jésus, que nous continuons inébranlablement et fondés dans la foi, en quoi ? En n'abandonnant point l'espérance de l'évangile que nous avons entendu. Donc si vous atteignez cette condition en n'abandonnant point l'espérance de l'évangile, cela veut dire que cette condition est le fruit final d'une persévérance qui vous a mené jusqu'à ce point final où vous avez finalement atteint cette condition sainte, sans tache et irrépréhensible. Et pour fortifier davantage cela, vous lisez au verset 25, l'apôtre Paul ici parle de l'église dans laquelle il est le ministre et il dit « dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin, quoi ? Afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille en combattant par sa vertu qui agit puissamment en moi. Donc, l'apôtre Paul disait ici que tout son travail, toute cette activité dont il était le ministre, avait pour but de finalement pouvoir rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'était tout l'objectif, l'objet de l'évangile dont il avait été fait ministre. Et nous allons dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 et verset 25. Où ici, il dit en d'autres mots cette même déclaration de l'objectif de l'évangile. Il est écrit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère caché depuis la fondation du monde, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel et annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire dans tous les siècles par Jésus-Christ. Amen. » Donc, qu'est-ce que nous lisons ici? Que va faire cet évangile et cette prédication de Jésus-Christ? Il dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, qui était caché depuis la fondation du monde, selon la révélation du mystère caché depuis la fondation du monde, mais qui est présentement manifesté par les écrits des prophètes. » Comment est-ce que ce mystère était présentement manifesté, finalement révélé par les écrits des prophètes, afin que les nations obéissent à la foi? Donc, qu'est-ce que c'est? Dieu peut le faire, n'est-ce pas ce qui est écrit? À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile. Il peut le faire. Il peut nous affermir. Il peut quoi? Il peut nous présenter saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. Il est à même de le faire. Mais comment se propose-t-il d'opérer un tel changement? Comment se propose-t-il d'opérer une telle préparation en nous? Une vraie préparation. Une préparation réelle et concrète qui fera que notre caractère reflète l'image de Dieu. C'est ce que nous voulons savoir. Pas simplement de déclarer un appel légaliste, pas simplement de frapper de la Bible par les exigences de Dieu que nous y trouvons, tout en notant aux croyants la capacité que nous donne l'amour de Dieu. Ça vous est déjà arrivé, ça? Qu'on vous frappe sur la tête avec la Bible en vous récitant toutes les exigences, mais on ne vous donne aucun moyen vivant, pas simplement du formalisme, mais aucun moyen vivant, affectif et spirituel par lequel parvenir et accomplir et satisfaire ses exigences. Donc nous voulons savoir et pouvoir être à même de répondre du plus profond de nos cœurs à cette question. Comment Dieu se propose-t-il d'opérer un tel changement en moi qui ai été si pécheur, si rebelle, peut-être même apostat? Et toutes ces choses qu'il ne convient pas de nommer. Allez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et versets 4 à 9. Vous savez, frères et sœurs, ici, nous entrons dans un sujet qui n'est pas un sujet nécessairement de débat, mais qui est un sujet où nous affections les plus intenses sont suscitées par Dieu. Vous savez comment cela se fait? C'est parce que Dieu manifeste qu'il a lui-même des affections profondes et intenses envers ses enfants, envers ceux pour qui il a payé un tel prix pour le rachat de leurs âmes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, en partant par le verset 4. Et ici, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe d'une manière absolument prophétique. Parce que si vous avez du discernement et que vous lisez cela, et essayez de l'appliquer à eux, vous verrez que ça ne peut pas s'appliquer entièrement à eux et que lorsqu'ils ont lu ces paroles, il y a dû se passer quelque chose dans leurs esprits où ils ont dû se dire, mais est-ce que c'est pour nous ça? Et c'était pour eux. Mais à bien plus forte raison, c'est pour nous aujourd'hui. Écoutez ce que dit l'inspiration. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir de ce que vous avez été enrichi en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Oh, il est fidèle! Quel encouragement! Mais avant d'être encouragé, il nous faut comprendre. Comprendre ce qui est ici signifié par ce témoignage de Christ. Que lisons-nous ici? Le témoignage de Christ confirmé en nous fait que nous ne manquons plus d'aucun don, que nous serons affirmés jusqu'à la fin pour être irrépréhensible au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a ici une importance toute particulière qui est investie dans ce témoignage de Christ dont il parle ici. Et vous regardez, il est déclaré, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment, je pose la question maintenant, comment vérifier que cela s'applique au dernier jour? Comment? On se tourne vers les paroles d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, et verset 17. Donc ici, après la période des 1260 ans, pendant laquelle l'Église avait fui dans le désert, symboliquement parlant, à l'abri des persécutions de l'Église papale, ici, au temps de la fin, et dans les années suivantes, ces paroles du verset 17 nous sont données pour identifier l'expérience de l'Église. Je lis. Après le verset 16, où la femme est allée se réfugier dans les terres où le dragon ne pouvait plus l'atteindre, ce qui a trouvé son accomplissement dans tous ces mouvements de la Réformation, tous ces peuples protestants qui sont allés se réfugier, certains dans le Nouveau Monde, ce qui est plus tard devenu les États-Unis d'Amérique, certains d'autres en Suisse, qui était devenu un pays protestant, d'autres en Allemagne, d'autres en Angleterre, et ainsi l'Église, la femme, fuyait loin de ce fleuve que le dragon lançait de sa gueule. Et après cela, après cette période qui s'est poursuivie et allongée jusqu'au temps de la fin, comme Jésus l'avait prophétisé dans Matthieu chapitre 24, après cette période, au temps de la fin, à partir de 1798, nous lisons ceci. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons le peuple qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et ce n'est autre que ceux qui nous sont présentés au chapitre 14, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ceux qui sont finalement trouvés sans tache devant le trône de Dieu. Et donc maintenant, en ayant établi ces liens, cela nous permet de répondre à la question du comment. Comment Dieu se propose-t-il d'opérer ce changement par lequel il pourra maintenant nous présenter à lui saint, sans tache et irrépréhensible. C'est écrit ici, si nous y revenons, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 6. Parce que eux, l'Église apostolique, ils avaient ces choses. Avant que l'apostasie, dont il était question dans l'une des épîtres aux Thessaloniciens, se soit produite et porté tous ses fruits de dissension et de décadence morale et spirituelle. Avant cela, l'Église apostolique avait les dons, et donc le don de l'esprit de prophétie était dans l'Église, et s'adressant aux Corinthiens, qui croyaient, qui recevaient les écrits de Paul, ainsi que tous les prophètes précédents de l'Ancien Testament, s'adressant à eux, il leur disait « Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir de point, de ce que vous avez été enrichi en lui, de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. » Comment ? Parce qu'il recevait le témoignage des prophètes. Et si vous réfléchissez un peu, qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3, lorsque le témoin fidèle et véritable, Jésus, s'adresse à l'ange de l'église de Laodicée, il lui dit, tu dis, je me suis enrichi, je suis riche et je me suis enrichi. Enrichi comment ? Enrichi de toute la connaissance de la vérité. Et ici, vous avez un grand parallèle, parce que l'apôtre, il dit, je rends grâce de ce que vous avez été enrichi en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, par tous les écrits qu'il leur a envoyés, qu'ils ont reçus, en plus de déjà toute la connaissance qu'ils avaient à travers les évangiles et les prophètes de l'Ancien Testament, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi, maintenant ? Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le témoignage de Christ, le rôle ici du témoignage de Christ, est-ce que vous voyez combien ce rôle est vital et essentiel pour que nous puissions parvenir à cet état sans tache de perfection ? N'est-ce pas le rôle ici ? Comment est-ce qu'il va nous affermir jusqu'à la fin ? Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Et maintenant, qu'est-ce donc que le témoignage de Jésus-Christ que nous voyons que ce peuple possède ? Apocalypse, chapitre 19, versets 9 à 10. Alors, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Ici, relié directement à cela, j'aimerais vous lire des citations de l'esprit de prophétie dans les écrits d'Ellen White. Je vous lis ici dans le livre « Conseil à l'Église » à la page 72 et au paragraphe 4. parlant ici d'un frère qui rejetait les témoignages. Elle poursuit en disant « Je pris la précieuse Bible et je l'entourais de quelques témoignages pour l'Église donnés pour le peuple de Dieu. » Témoignage pour l'Église, elle fait ici référence à ses livres dont il existe 9 volumes dans la langue originale anglaise. Donc elle a pris quelques témoignages pour l'Église et elle a mis la Bible au milieu et ses témoignages autour. Et elle dit ceci. Là, dis-je, on considère le cas de presque tous les croyants. Les péchés qu'il leur faut éviter sont mis en relief. Ils trouveront dans cette lecture ce qu'ils cherchent. Les conseils qui ont été donnés pour d'autres cas similaires aux leurs. Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte. Mais peu d'entre vous savent vraiment ce que contiennent les témoignages. Les saintes écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé de vous familiariser avec le livre inspiré que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles de l'inspiration auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ces enseignements purs et élevés. Est-ce que vous voyez ici? Ce serait intéressant parce que si vous revenez sur ce qu'on était en train de lire dans Apocalypse chapitre 19, vous avez ici l'ange qui parle à Jean. Jean se met sur le point de l'adorer et l'ange lui dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Et ensuite il dit « Adore Dieu, pas moi, adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Et si vous plongez vos regards dans le sens de ce qui est écrit ici, il y a quelque chose de tout particulièrement personnel et affectif de l'amour de Dieu que l'ange est en train de représenter à l'apôtre Jean. Il est en train de lui dire, moi, comme tes frères dans le service du Seigneur, j'ai et je te communique le témoignage de Jésus. Et il dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie, ou si vous tournez, si vous inversez les deux mots, les deux expressions, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et donc cela attire notre attention vers le fait que c'est Jésus qui parle. D'où l'importance d'écouter ce que Jésus dit. Et donc vous avez vu que ici, la sœur, sous l'inspiration de l'Esprit, elle nous dit « Mais peu d'entre vous savent vraiment ce que contiennent les témoignages. » Et si nous avions obéi à la parole de Dieu et que nous avions fait de la parole de Dieu notre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, comme nous l'avons vu, sans tache, irrépréhensible, saint, être présenté devant lui comme cela, si nous avions étudié la parole de Dieu avec ce désir-là et cette approche-là, elle nous dit, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. Mais de la même manière qu'il est écrit dans Romains, chapitre 3, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes aujourd'hui dans une condition spirituelle, en cette époque de l'Église de Laodicée, où nous avons un besoin suprême des conseils de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ? Je te conseille d'acheter de moi de l'or pour être riche et des vêtements pour que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour tes yeux pour que tu vois. Comment est-ce qu'il va nous donner ces choses-là ? Comment est-ce que nous pouvons venir à lui ? Est-ce que vous allez venir à lui et dire, Seigneur Jésus, j'achète de toi maintenant ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur a donné le témoignage pour que lorsque nous lui demandions, il nous donne ses conseils. Et tout le monde a droit aux mêmes conseils qui sont écrits dans les témoignages de l'Esprit de prophétie. Vous comprenez? Donc maintenant, lorsque nous entendons, oui, l'esprit de prophétie, c'est bien, ça nous dirige vers la Bible, et ensuite, on ignore. On ne parle plus de l'esprit de prophétie. Comme si, maintenant que nous avons compris que l'esprit de prophétie était censé nous diriger vers la Bible, eh bien, maintenant, nous n'avons plus besoin de l'esprit de prophétie parce que nous avons été dirigés vers la Bible. Ça ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. De la même manière que le pécheur a constamment besoin d'être justifié par la grâce de Dieu afin d'être finalement transformé pour ne plus pécher, nous avons également besoin, constamment besoin, des conseils, des directives, et des avertissements et des répréhensions et des admonestations de l'esprit de prophétie contenu dans les écrits d'Ellen G. White. Elle dit, c'est parce que vous avez négligé de vous familiariser avec le livre inspiré que Dieu a cherché à quoi ? À vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles de l'inspiration auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ces enseignements purs et élevés. Pourquoi est-ce qu'il donne ces choses-là ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'attirer notre attention vers les paroles de l'inspiration auxquelles nous n'avons pas obéi et nous exhorter à accorder nos vies avec ces enseignements purs et élevés ? C'est parce que l'esprit que Satan cherche à insuffler en nous, c'est « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à nous atteindre par des témoignages simples et directs pour attirer notre attention vers la Bible. Vous comprenez maintenant le caractère indispensable et le rôle essentiel de l'esprit de prophétie dans les écrits d'Ellen White. Vous comprenez, frères et sœurs, j'insiste bien sur ce fait, parce que si nous voulons prendre la Bible comme la règle de notre foi, il nous faut garder en compte tous ces passages que nous avons étudiés aujourd'hui. Et la Bible, vous savez ce qu'elle fait ? Elle dirige notre attention vers l'esprit de prophétie. Et vous savez ce que fait l'esprit de prophétie ? Il dirige notre attention vers la parole de Dieu. Et etc., etc. C'est comme le Fils qui attire notre affection vers le Père, et le Père, il dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-le. Écoutez-le. Et comment est-ce que nous allons écouter Jésus? En écoutant, en lisant, en contemplant le témoignage de Jésus. Que dit l'ange ? Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et pour conclure, frères et sœurs, j'ai trouvé cette déclaration qui nous communique une application directe de ce que cela veut dire, que Dieu nous atteint par ces témoignages simples et directs qui tranchent dans le vif de notre expérience en séparant les os et la moelle, comme c'est écrit dans Hébreux au sujet de la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui parle, ça a un effet vif. La raison pour laquelle ça a un effet encore plus vif, c'est parce que nous avons négligé de nous familiariser avec la parole de Dieu et donc, avec cet esprit laodicéen, nous lisons la parole de Dieu comme si ce n'était pas pour nous. Mais Dieu, il nous parle par les témoignages et il nous dit « Oh, 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 si, si, c'est pour toi. » Ouh, comprenez ? Et c'est pour cela que la lumière inférieure, qui sont les témoignages, est indispensable. Parce qu'elle donne à la Bible, la lumière supérieure, sa vraie valeur. Autrement, la Bible, ça n'est rien. Ça n'est rien. Avec tous ces stratagèmes et ces subterfuges et ces séductions du diable aujourd'hui dans ces derniers jours où il fait la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, avec tout cela qui vole dans le ciel, pour ainsi dire, le rôle de l'esprit de prophétie est tel que nous ne pouvons nous en passer. D'ailleurs, c'est décrit ainsi, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, il y a un mot après, un mot très important. 1 Corinthiens 1, verset 6, « Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, quoi ? De sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et en anglais, c'est « De votre Seigneur Jésus-Christ, virgule, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » De telle sorte que tout ça, du verset 4 au verset 8, dans la Bible, King James, c'est un ensemble indissociable. Ici, au verset 8, dans la Bible Osterwald, vous avez une séparation. Mais la réalité, c'est que ces choses sont indissociables et il nous affermira aussi jusqu'à la fin à travers ce témoignage de Christ qui a été confirmé en nous. Si il a été confirmé en nous, d'où notre besoin profond que le témoignage de Jésus soit confirmé en nous. Et donc, j'aimerais lire pour terminer cette déclaration de premiers écrits à la page 58. Paragraphes 1 et 2, où Jésus nous rend témoignage. Il nous conseille, rappelez-vous, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or afin que tu sois vraiment riche. Pas riche de ce que tu crois, de toutes tes acquisitions de connaissances de la vérité, mais riche dans la foi et dans l'amour qui se manifeste par l'obéissance. » Je lis. Le Seigneur m'a montré le danger que nous courons en permettant à nos esprits d'être remplis de pensées et de soucis mondains. J'ai vu que quelques-uns se laissait détourner de la vérité présente et de l'amour de la Sainte Bible par la lecture de livres excitants. Ouh! De livres excitants? Est-ce que vous êtes détourné de la vérité présente par des livres excitants? Vous allez peut-être me dire, mais ouh, mais je ne lis pas trop, moi. Mais est-ce que, rappelez-vous, c'était écrit il y a plus d'un siècle. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas cette accumulation incroyable de moyens par lesquels nous pouvons être détournés et par lesquels nos affections peuvent être sapées et aspirées et peuvent nous être dérobées et peuvent être détournées vers des pensées et des soucis mondains. Des livres excitants. Oh, YouTube. Frères et sœurs, écoutons le témoignage de Jésus. Jésus parle. Nous avions lu la semaine dernière, Jésus parlant à sa messagère, à Ellen White, disait « Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur qui donne des messages d'avertissement et de répréhension. » Ce n'est pas elle qui parle, c'est Jésus qui parle. Je lis. J'ai vu que quelques-uns se laissaient détourner de la vérité présente et de l'amour de la Sainte Bible par la lecture de livres excitants. D'autres se préoccupent énormément de ce qu'ils mangeront, boiront ou porteront. Il en est aussi qui attendent la venue de Christ pour un avenir trop lointain. Le temps a duré quelques années de plus qu'ils ne s'y attendaient. Par conséquent, ils croient que cela peut durer encore bien des années. C'est ainsi que leurs esprits ont été détournés de la vérité présente pour s'occuper des choses de ce monde. J'ai vu qu'il y avait là un grand danger. Car si l'esprit est rempli d'autre chose, la vérité présente en sera chassée et il ne restera plus de place sur nos fronts pour y apposer le sceau du Dieu vivant. J'ai vu que le temps où Jésus doit officier dans le lieu très saint est sur le point de finir et que sa venue est très proche. Nous devrions employer tous nos loisirs à sonder la Bible qui nous jugera au dernier jour. Mes chers frères et sœurs, pensez constamment au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ et laissez-les repousser toutes les pensées et les soucis mondains. Qu'il soit l'objet de vos méditations quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Vivez et agissez entièrement en vue de la venue du Fils de l'homme. Le temps du scellement est très court et sera bientôt dans le passé. C'est aujourd'hui le temps pour nous, alors que les quatre anges retiennent les quatre vents, d'affermir notre vocation et notre élection. Oh! Par quoi est-ce que nous affirmerons notre vocation et notre élection? En pensant constamment au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ. Vous savez, la dernière ligne du paragraphe précédent nous dit « Nous devrions employer tous nos loisirs » en anglais, c'est « tout notre temps libre à sonder la Bible qui nous jugera au dernier jour. » Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le témoignage de Christ. Voilà, frères et sœurs. Puissions-nous vraiment rester accrochés à ces conseils du Seigneur. Et comme c'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la version Darby, « Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. » Si nous croyons en ses prophètes, si nous croyons en l'Éternel et en ses prophètes, nous serons affermis. Et le Seigneur nous rendra irrépréhensibles pour le jour du retour de Jésus. Dieu est fidèle, mais puissions-nous nous-mêmes faire les efforts nécessaires et répondre à cet appel. Mes chers frères et sœurs, pensez constamment au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ et laissez-les repousser toutes les pensées et les soucis mondains. Qu'ils soient l'objet de vos méditations quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Vivez et agissez entièrement en vue de la venue du Fils de l'homme. C'est ma prière que l'on fasse exactement cela et que l'on puisse se retrouver avec Jésus sur la montagne de Sion parmi les 144 000. Amen.